Cette défaite de la gauche et cette défaite de la droite, c'est la défaite du libéralisme. Je m'en réjouis. Alors on va vers une crise, on va vers des chocs, des affrontements, mais ça aura la vertu de clarifier. Je pense que la politique va devenir plus facile à comprendre dorénavant.
Nous sommes avec David Lépé, philosophe, écrivain, politologue. Et aujourd'hui, il y a la crise, l'Europe est dans la crise, dans la large crise incroyable, la crise migratoire, et en plus la crise idéologique. Quelles sont une des raisons de cette crise, selon vous?
Alors, une des raisons, et c'est le thème de ce colloque de l'Institut IAD de cette année, c'est la crise de la transmission. Elle n'est pas unique, mais beaucoup de problèmes découlent de ça. C'est-à-dire que, à travers la crise de l'école, à travers la crise de l'autorité, du rapport entre adultes et enfants tel qu'il a été théorisé depuis 1968, les déconstructeurs, les nouveaux pédagogues, depuis cette crise-là, il devient non pas impossible, mais plus difficile de transmettre les bases, notamment les bases identitaires, les bases philosophiques et civilisationnelles qui permettraient à la nouvelle génération d'être plus forte par rapport aux nouveaux défis que sont la crise sociale et économique, que sont aussi la crise migratoire. Cela dit, ce n'est heureusement pas une crise définitive puisque cette jeunesse aujourd'hui se révolte contre les pédagogues qui ont voulu la déconstruire, contre l'école, contre le système, et veut renouer avec son identité, avec son patrimoine, que ce soit la nation, que ce soit la mémoire longue, pour pouvoir savoir à nouveau qui ils sont. Ce qui, soit dit en passant, est à la fois la meilleure manière de lutter contre l'adversité, mais aussi d'accepter l'autre, puisque de toute façon, l'immigration, maintenant, elle est en place. Je ne crois pas forcément qu'il y ait une remigration, mais ce fameux vivre ensemble dont on nous parle, si un jour il existe, ce sera parce qu'on a des indigènes, des Français, des Européens, qui avant tout savent d'où ils viennent, sont fiers de ce qu'ils sont, et ainsi peuvent communiquer, dialoguer avec l'autre dans un rapport de fierté. Sinon, ce sera très difficile.
Quelles sont des bases de la civilisation européenne? Parce qu'il y a plusieurs bases. Qu'est-ce que c'est la base, le fondement de notre civilisation?
C'est très délicat à dire parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tous les siècles derniers ont été aussi le siècle des siècles de fragmentation. Il y a pour des raisons évidentes de la géographie, l'Europe, comme l'Asie, comme même la Russie, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de réalité nationale unique. Et ces réalités nationales qui sont venues, notamment depuis le siècle des révolutions et avant, elles ont créé des identités qui sont aussi importantes. On parle aussi à la fois dans ce colloque de l'identité européenne et de l'identité française, puisque c'est là où nous nous trouvons. S'il faut parler des souches, des substrats, oui, évidemment, on sait que les origines de notre Europe sont gréco-latines, helléno-chrétiennes ensuite par rapport à d'autres souches qui a aussi un substrat païen complexe. Tout ça, c'est un passé qui va ensuite se mixer avec les réalités des temps modernes, les réalités nationales. Il est très délicat de le définir plus précisément que ça. En disant ça, on a déjà beaucoup dit. Le reste, c'est rentré dans le détail des peuples. Et je dis bien les peuples au pluriel, parce que peut-être que tous mes collègues ne seront pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas un peuple européen, il y en a beaucoup, heureusement d'ailleurs.
Si on regarde aujourd'hui le pôle de le combat présidentiel, nous voyons aussi deux mouvements philosophiques parmi lesquels Marine représente en quelque sorte le peuple et Macron représente en quelque sorte l'antipopulisme. Quel est l'avenir de ce combat? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le combat de deux idéologies, de deux moments, moment populiste et moment antipopuliste?
Oui, je pense que vous avez très bien résumé. Alors, il est encore un petit peu trop tôt pour savoir ce que sera le deuxième tour des élections présidentielles. On peut quand même voir, sans trop s'avancer, qu'il y a une éventualité tout à fait sérieuse d'avoir, comme vous l'avez dit, un deuxième tour Macron, Marine Le Pen. Et si ça arrive, et quel que soit le résultat final, ce sera déjà quelque part un bouleversement extrêmement positif pour nos idées, parce que ça aura prouvé que pour la première fois depuis fort longtemps dans l'histoire de cette République, au deuxième tour ne seront présents aucun des deux grands partis de la République, c'est-à-dire le grand parti de gauche, le parti socialiste et le grand parti de droite qu'on appelle aujourd'hui les Républicains. Et ça, ce serait vraiment un bouleversement énorme. Et évidemment, entre ces deux candidats, il y en a un qui m'est beaucoup plus antipathique que l'autre, mais les deux font preuve d'une certaine cohérence. Et ça, c'est leur mérite. Emmanuel Macron est quelqu'un... Alors on dit qu'il n'a pas de programme, c'est pas vrai. Il en a un, seulement ce sont des grandes lignes. Et quelqu'un qui est programmatiquement, idéologiquement très cohérent. C'est un libéral intégral. C'est ce qu'on appelle, chez Kluskar, un libéral libertaire, c'est-à-dire à la fois pour le capitalisme le plus dérégulé, donc pour la mondialisation et l'abolition des frontières, pour la triple libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises, et pour toutes les réformes sociétales inspirées de la gauche bourgeoise en matière de mœurs, en matière de culture. Tout ça est très cohérent. Et la femme qui s'oppose à lui, Marine Le Pen, telle qu'elle s'est construite ces dernières années, présente la même cohérence en miroir inversé, c'est-à-dire le retour de la nation, le retour des frontières, le retour de l'école, le rétablissement d'une culture populaire. En fait, c'est la défense des classes populaires. Vous dites populiste et antipopuliste, c'est vrai, mais c'est aussi, ça c'est de la communication, hein, le populisme, mais derrière, il y a des réalités sociales enracinées populaires. On a le camp du peuple contre le camp des élites, le peuple enraciné, le peuple patriotique, le peuple, j'allais dire, le peuple populaire, c'est une formule un peu pas très heureuse. Et en face, ces élites, elles sont transnationales, sont cosmopolites, sont hors sol, sont déracinées. Cette élection, malgré tous les défauts de la République et du système électoral et de cette démocratie-là, si elle a lieu de cette manière-là, au moins, elle aura un sens. Et je pense que les gens, j'espère que les Français à ce moment-là descendront voter parce qu'ils ne peuvent pas être indifférents. On peut pas dire je suis ni pour Macron ni pour Le Pen. Bien sûr qu'on peut être pour un autre candidat, mais si ces deux-là s'opposent, ce sont deux pôles. Et là, il faut absolument choisir. Et évidemment, j'espère, je ne sais pas quelles sont ses chances, mais j'espère que Macron perdra cette élection parce que c'est un homme extrêmement dangereux. Je pense que dans le camp populaire, dans le camp national, mais aussi dans le camp socialiste auquel je suis très attaché, l'ennemi numéro un à désigner maintenant et à battre, c'est Emmanuel Macron.
Nous avons vu aussi que le parti du Front National, à l'époque, elle était extrêmement droite. Je parle de droite capitalistique, des valeurs de capitalisme du marché. Puis il y avait à partir de 2011, la grande transformation. Et le Front d'aujourd'hui n'est pas du tout le Front de Jean-Marie Le Pen. Quels sont les changements dans le Front, dans vos idéologies?
Alors oui, il y a eu un changement qui est dû au renouvellement des générations, puisque le Front National, comme tous les partis, doit être à un moment le reflet des changements dans la société et le changement, notamment le remplacement des anciens cadres par les nouveaux. Ce changement que vous estimez aux 5 ou 6 dernières années, je pense que c'est assez juste, même si on pourrait remonter un petit peu avant, est dû en grande partie, entre autres, à l'influence d'un homme comme Florian Philippot, qui est une des éminences grises de Marine Le Pen et qui est un homme très intéressant, qui a une sensibilité gaulliste et de ce fait aussi une sensibilité qu'on pourrait dire sociale, plus développée, sans se départir de la question identitaire, parce que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles vont ensemble. Comme je vous le disais, le populaire, c'est à la fois la question sociale et l'enracinement identitaire. Tout ça est... Et de même que quand on s'élève au-dessus de ça, ces élites sont à la fois déracinées sur le plan identitaire et à la fois loin des préoccupations sociales, parce qu'elles sont, elles brassent large, elles brassent le capital. Donc ce changement, principalement, il est là, puisque c'est un changement positif. C'est ce qui lui permet aujourd'hui, même si les journalistes évidemment refusent de l'admettre, de se profiler de plus en plus comme un mouvement qui n'est vraiment ni de gauche ni de droite, qui est vraiment populiste. Et c'est ça l'avenir, comme Macron. Macron n'est plus ni de gauche ni de droite. Il a dépassé ça parce qu'aujourd'hui, la réalité est loin de ça. Historiquement, le Front National, bien sûr, un parti de droite, même parfois de droite radicale sur certains points, il a poursuivi, malheureusement, pendant un certain temps, une ligne, il faut bien dire, libérale. Aujourd'hui, il veut en sortir et il a raison de le faire parce que je pense que les Français ne veulent pas plus de marché, mais un marché plus régulé. Ils ne veulent pas d'une économie plus prédatrice, mais davantage de protectionnisme suite à la pression migratoire, suite aux pressions, aux diktats de l'Europe, qui est une Europe néolibérale, même si la droite ne veut pas le comprendre. Donc, elle a raison de s'avancer sur cette ligne, et j'espère que ce n'est pas que de la communication, mais que c'est sincère. Mais ça, je ne suis pas dans sa tête. Voilà, mais espérons.
Si on regarde aussi le programme de Marine, elle a édité un sort d'affiche que je vous ai montré d'ailleurs, où il y a un mix extrêmement intéressant. Elle tape sur le point qu'elle est la femme, elle tape sur cette identité du sexe. Qu'est-ce que vous, dans le même temps, nous voyons que dans l'Europe, il y a des mouvements féministes forts, parfois financés par le Soros, parfois par les États-Unis, les anciens élites globalistes. Quelle est la différence entre ce deux types de féminisme? Est-ce que c'est correct de nommer Marine Le Pen féministe de alternative ou quelque chose comme ça?
Alors, est-ce qu'on peut l'appeler féministe alternative? Je ne sais pas, mais le discours qu'elle tient maintenant sur la défense des femmes, que ça plaise ou non, a un sens. Évidemment, je ne connais pas bien son discours sur la question, mais j'imagine évidemment que dans le cadre de sa critique de la politique migratoire actuelle, elle se préoccupe des femmes, notamment des femmes des quartiers populaires, qui vivent dans un milieu de plus en plus où l'islam est de plus en plus présent. Et je pense que si le pays se laisse islamiser, on en souffrira tous, mais les femmes en souffriront peut-être encore plus que les autres, puisqu'on sait évidemment le caractère problématique du statut qui peut leur être réservé en termes de liberté, par exemple. Et aujourd'hui, toute une partie du camp national, notamment dans le nord de l'Europe, qui a une sensibilité philosophique plus libérale, on va dire, on peut le voir. On le voit déjà en Suisse, d'où je viens, mais également dans les pays du nord, dans les pays scandinaves ou en Hollande, insiste beaucoup là-dessus, insiste sur la liberté de la femme contre l'islamisation. Ils vont parfois même jusqu'à parler de la liberté des minorités sexuelles contre l'islamisation. Il faut faire attention parce qu'on ne sait pas en quelle mesure cet objectif est sincère ou s'il vise à une récupération un peu islamophobe où tout est bon contre l'islam. Parce qu'il y a aussi une extrême droite qui joue là-dessus de manière assez malhonnête. Je ne pense pas que ce soit le cas de Marine Le Pen, mais disons, il faut se méfier aussi un petit peu de ça. Ensuite, il y a une manière de défendre les femmes qui est en rupture avec la tradition de la gauche, ça c'est vrai, et l'incarne de sa manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la défense de la femme, ce n'est pas la théorie du genre, ce n'est pas l'indifférenciation des sexes, ce n'est pas l'éloge d'une personne neutre et inexistante, ce n'est pas la lutte contre la nature, ce n'est pas la thèse de la déconstruction. Non, je pense que... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du féminisme, mais je pense que la défense de la femme aujourd'hui, elle passe au contraire par une fierté identitaire sexuelle, la fierté d'être une femme, la revendication d'avoir dans bien des domaines un statut égal, que ce soit en termes de salaire, en salaire de droit, c'est des revendications tout à fait légitimes et sur lesquelles des efforts restent encore à faire, notamment dans le monde du travail, mais non pas au prix de son reniement, mais au prix de son exaltation. Et pareil pour les hommes qui doivent exalter le fait d'être hommes de la même manière, car c'est à cette seule condition qu'on peut vivre ensemble en bonne entente et même en amour, sans que ce soit la guerre idéologique. Et c'est à cette seule condition, je pense aussi, que peuvent demeurer des éléments aussi importants que le rapport de séduction. Parce que le jour où, mais ce jour n'arrivera pas, je n'ai pas peur, mais le jour où on nous fait croire vraiment qu'il n'y a plus d'hommes et plus de femmes, qu'est-ce qui nous poussera à nous séduire? Qu'est-ce qui nous poussera à nous aimer? Ensuite, qu'est-ce qui nous poussera ensuite à fonder des familles, à régénérer nos peuples? On n'aura plus aucune raison de le faire.
Mais la famille, ce n'est pas la catégorie de la société libérale, donc nous aurons les robots.
Et c'est pour ça, comme vous le dites, que des groupes comme Soros ou d'autres groupes mondialistes ont intérêt à financer certains projets, décourager la famille, en tout cas décourager la famille occidentale, parce que pour la remplacer, puisqu'il y a une substitution de peuplement qui se fait du fait qu'on n'encourage pas, ni socialement, ni idéologiquement, le renouvellement démographique à travers les assurances sociales, à travers les assurances maternité et à travers un discours familialiste qui est aujourd'hui extrêmement mal vu, sauf si ça s'adresse aux autres, c'est-à-dire aux non-européens, où on va dire « Ah, c'est bien, ils ont une tradition enracinée, ils ont des racines. » Et c'est vrai. Mais pourquoi qu'on nous, en faisant preuve, ça devrait être diabolisé comme quelque chose de réactionnaire? Là, il faut se poser la question. Et effectivement, comme vous le suggérez, le fait que certains de ces groupes, et vous en connaissez aussi à l'Est, soient financés par ces gens-là, en dit long sur leur projet.
Il y a une chose d'extrême importance. Cet mouvement féministe, d'habitude, elle vient de la milieu de gauche. De communistes, ils sont communistes, anciens communistes. Par exemple, les femmes, elles étaient évoquées dans le parti de gauche. Je parle de parti idéologique. On voit aujourd'hui la crise de la doctrine gauche. Oui. Quelles sont les raisons pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec la gauche, comme l'idéologie, comme les partis? Qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui et depuis quand même bien 30 ans, la gauche est redevenue ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire l'aile gauche d'un système libérale au sens très large, avec ce qu'elle était au tout début, depuis la Révolution française, et ensuite ce qu'elle a cessé d'être au cours du 19e siècle, et même, je dirais même, à la fin du 19e siècle, quand elle a tendu la main au mouvement ouvrier, parmi lesquels on trouvait les syndicalistes, les communistes, les socialistes, les anarchistes aussi, et qu'ils ont fait un bout de chemin ensemble. C'était la grande époque d'une gauche sociale, d'un parti socialiste qu'il était vraiment. C'était le Front Populaire. C'était, je pense, une période tout à fait intéressante, mais qui ne pouvait pas durer, parce que dans ce couple-là, il y en a un qui a fini par abattre l'autre, c'est-à-dire que la gauche, donc c'est-à-dire le versant gauche de la pièce libérale, finit par écraser la partie populaire, donc la partie socialiste. La gauche est redevenue ce qu'elle était, c'est-à-dire une des parties de la bourgeoisie, l'autre étant occupée par la droite, et malheureusement une partie du peuple, comment dire, des électeurs socialistes ne l'ont pas encore compris. Non, parce que par habitude, évidemment, parce qu'ils ont l'habitude depuis tout ce temps, il y a même un vote familial, il y a même une hérédité, n'ont pas compris que le socialisme aujourd'hui n'est plus la gauche. C'est même quelque chose de tout à fait inverse. Et alors, quelque part, c'est dommage, parce qu'on peut dire, oui, la gauche a trahi, mais en trahissant, elle est revenue ce qu'elle était. C'est-à-dire, elle s'est démasquée, elle a révélé son visage qui était le sien à l'origine. Et ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que ça clarifie le débat. Le socialisme est autre chose. Évidemment, il ne se traduit pas actuellement dans un parti, peut-être demain, je ne sais pas, mais il se traduit dans certains syndicats, dans certains groupes, dans certaines initiatives locales, aussi dans certains courants de pensée chez certains auteurs. Et on est en train de refonder ça. Il faut simplement que les gens comprennent aujourd'hui que si au deuxième tour, on n'aura ni, je l'espère, je le prévois, ni les socialistes ni les républicains, ça veut dire qu'on n'aura pas les grands représentants de la famille libérale. Cette défaite de la gauche et cette défaite de la droite, c'est la défaite du libéralisme. Je m'en réjouis. Alors on va vers une crise, on va vers des chocs, des affrontements, mais ça aura la vertu de clarifier. Je pense que la politique va devenir plus facile à comprendre dorénavant.
Mais ça va aussi montrer que le système libéral a compris que les gauches et les droites ne marchent pas, et donc ça sera peut-être le nouveau visage de libéralisme.
Ça, c'est bien possible. Effectivement, Macron est le nouveau cheval sur lequel il mise, comme on dit dans les paris. Ils ont bien compris que, quitte à faire du libéralisme, autant faire du libéralisme total. Parce que quand on avait des libéraux de droite, ces libéraux de droite, ils étaient bien gentils. Ils ouvraient les frontières pour le capitalisme. Ils faisaient du business mafieux, financier. Mais en même temps, pour plaire aux électeurs, et notamment aux électeurs populaires, ils parlaient toujours de patrie, de valeurs conservatrices. C'était une contradiction. Il faut virer ça. Pareil pour la gauche, les libéraux de gauche, alors ils étaient pour le mariage pour tous, ils étaient pour faire venir des immigrés, donc c'était des bons libéraux. Mais en même temps, ils voulaient défendre les salaires, ils voulaient défendre les syndicats, ça n'allait pas. C'était une contradiction dont il fallait se débarrasser. Alors à gauche, on se débarrasse des socialistes, on se débarrasse de l'aide syndicale, on se débarrasse de tous ceux qui défendent les salaires et les acquis sociaux. Et à droite, on se débarrasse des conservateurs, on se débarrasse des patriotes, on se débarrasse des défenseurs de la famille. Et qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste la ligne Macron, c'est-à-dire le libéralisme intégral. Et ça, évidemment, si j'étais Georges Soros, il vaudrait mieux miser sur Macron que sur les autres. C'est logique, c'est cohérent. Ouais.
Évidemment, évidemment. Et la dernière question sur la colloque, quelle est la nécessité d'être présente et d'avoir les colloques comme ça en France, et qu'est-ce que ça change? Il y a un an, on a parlé ici à un colloque sur la Renaissance européenne culturelle. Oui. Aujourd'hui, nous voyons le discours plus critique parce que l'Europe fait le mouvement vers l'abîme. Le champ métapolitique, le champ philosophique que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que ça change?
Alors, il est important d'organiser ce genre de colloque, parce que c'est une synthèse, ça réunit beaucoup de gens qu'on ne voit pas forcément en même temps, qui expriment leur point de vue, et je pense que c'est important de le faire à une époque où on organise peut-être moins de conférences physiques, parce qu'on a l'impression qu'Internet nous a beaucoup libérés. C'est vrai qu'Internet nous a libérés, mais il ne faut pas... On ne peut pas agir, militer, agir pour son peuple en regardant simplement des vidéos YouTube, même si c'est très bien de le faire. Aujourd'hui, on a accès aux livres, on a accès aux vidéos, beaucoup plus qu'avant, grâce à Internet. C'est une très bonne chose, mais ça ne doit pas on ne doit pas se cultiver et se construire uniquement dans son bureau ou dans sa chambre, parce que sinon, on coupe le lien social. Venir ici, c'est pas simplement écouter une conférence qu'on pourrait regarder sur Internet, parce qu'elles sont toutes filmées et gratuites, non. C'est aussi rencontrer ces gens-là, les auteurs, rencontrer le public. c'est une occasion sociale. Ça permet ensuite, on a aussi un stand avec effectivement des médias dissidents, des éditeurs. Ça permet aussi d'entrer en contact avec tous ces gens, de participer de manière plus active à ce long mouvement, d'organiser du réseau, comme les militants politiques l'ont fait pendant des siècles. Le grand siècle des idéologies, qui était le XXe siècle, n'avait pas Internet. Et on voit que les gens se déplaçaient beaucoup, étaient prêts à mettre un peu d'argent pour assister à une conférence, pour acheter un livre physique, etc. Il faut vivre avec les deux, mais il ne faut pas oublier la base reste humaine. Et l'avantage d'un colloque sur une chaîne YouTube, c'est le caractère humain et c'est le lien social. C'est important.
Nous pouvons dire que la formation, c'est ça. Ici, il y a la formation d'une nouvelle Europe, l'Europe résistante à cette vague du globalisme libéral total.
Oui, c'est vrai. Alors, le colloque de l'Institut hier a une vision élitiste revendiquée, qui n'est pas forcément la mienne, mais ils en font aussi, c'est-à-dire qu'ils forment des cadres triés sur le volet, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire c'est vraiment des gens, c'est des étudiants, des jeunes gens, mais aussi ouverts à tous, à qui on va demander beaucoup, un vrai travail, de façon à pouvoir mériter de ça, ce qui était d'ailleurs un petit peu la stratégie de base de la nouvelle droite à l'origine, c'est-à-dire créer des élites pour les avoir à des postes clés. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est bien d'essayer. Mais je pense qu'il faut viser plus large, il faut aussi s'adresser au grand public. Et ce colloque s'adresse au grand public, je pense. Je pense que chacun peut venir ici, trouver ce qu'il cherche, et en même temps s'abreuver de littérature dissidente. Donc oui, il est important de voir ça non seulement comme une manière de s'instruire et se cultiver, mais comme une manière de se former. On parle de transmission, hein, transmettre ou disparaître. La transmission, c'est la formation des jeunes par ceux qui ont quelque chose à leur apprendre, ou qui sait qu'il y a une autorité à faire valoir.
Comme c'est dit en Russie, nous allons prier pour ceux que l'Europe va avoir à la Renaissance. Je vous remercie.
Je vous remercie.